Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
Moi vouloir être un chat.
Garogory.
Un cavalier qui surgit hors de la nuit.
La curiosité est un vilain défaut.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Vous l'avez compris, c'est la sexualité des animaux qui nous passionne ce
Franchement,
matin
c'est
sur
pas
RTL
une évidence, hein.
Avec notre bestiologue favori, Marc Giraud. Bonjour Marc.
Bonjour.
Alors, vous avez Bonjour, reconnu Marc. Le chat, la tortue, le gorille, le cheval, c'est ça?
Oui, oui, enfin ils n'étaient pas forcément tous en rut, mais...
Ah, parce
oui,
que vous pouvez faire le cri des animaux?
Non, c'était deux chevaux qui se disaient bonjour, qui couinent.
Ah, c'est pas la même chose.
Non, non.
Et deux chevaux en rut, ça ferait quoi comme bruit?
C'est plutôt du bruit que des cris. Voilà.
D'accord. Ah oui.
Il y en a qui font du bruit.
Alors, vous êtes écrivain, vous êtes spécialiste des animaux, vous êtes l'un des sociétaires de notre émission pour ceux qui nous écoutent en hors saison d'été. Est-ce que, tiens, première question, est-ce qu'elles sont différentes de nous, finalement, en matière de sexualité? Ou est-ce qu'on retrouve des points communs?
Il y a beaucoup, beaucoup de points communs, on s'y retrouve, mais ils sont tellement inventifs qu'il y a vraiment des choses, on ne pourrait pas y arriver, quoi. Donc, la grande différence entre les animaux et nous, c'est qu'il n'y a aucune morale. Il n'y a rien d'illégal, il n'y a rien de...
Il n'y a pas de pudeur, voilà.
Non,
de tabou.
Non, il n'y a pas de tabou, donc ils y vont franchement.
Donc ça ouvre une gamme des possibles.
Est-ce que ça se drague,
vaste.
Les animaux? Ils se draguent. Ils se font la cour.
Oui, oui, bien sûr. Ah bah, c'est surtout les mâles. Mais alors, les mâles, ils font n'importe quoi. Ils chantent, ils se costument, ils se parfument. Ils font des acrobaties. Ils risquent leur vie, même. Il y en a qui mentent. Il y en a qui... Enfin, il y a beaucoup de choses.
Il y en a qui mentent.
Oui, il y en a qui mentent pour arriver à leur fin. Oui. Comme le coq, par exemple. Quand il voit une poulette nouvelle dans le poulailler, il fait un cri d'appel de nourriture. Et voilà. Même s'il n'y a pas de nourriture.
C'est-à-dire que les femmes dans le règne animal ne draguent jamais. Elles se font draguer et elles choisissent.
Ah,
ça marche plus comme ça.
Souvenirs, ça,
si.
C'est toute votre jeunesse.
Elles draguent aussi les femmes.
Ah bah oui, elles se parfument beaucoup. Elles émettent des phéromones.
Ouais.
Donc elles avertissent de leur état, qu'elles le veuillent ou non. De toute façon, elles le savent. Hein. Comme vous promenez un chien, il sait, lui, en niflant les déjections des autres, si la chienne du coin est en chaleur ou non, il sait tout. Hein. Donc il y a des messages chimiques. Ils fonctionnent beaucoup au flair. Je parle des mammifères. Hein. Nous, on est beaucoup à la vue, mais beaucoup au flair, ils savent tout, avec le nez. Hein.
Alors, vous publiez, Marc Giraud, le sex appeal du crocodile et autres histoires bestiales chez Delachaux et Niestlé. Tiens, le crocodile, justement, c'est quoi sa sexualité? C'est une bête de sexe ou pas du tout?
C'est un curieux, parce que les reptiles, bon, c'est assez tranquille, mais les crocodiliens... Ils gazouillent beaucoup, ils mugissent, ils glapissent, ils font des bulles dans leur bain, ils soufflent de l'eau avec le nez, ils claquent la queue sur l'eau, enfin ils éclaboussent, et voilà, ils sont très démonstratifs.
Ça, c'est la danse nuptiale ou c'est pendant l'acte sexuel?
C'est le mâle qui appelle.
Ça, c'est la drague.
Qui drague les filles, hein, c'est toujours un peu la même histoire, c'est universel. Donc il fait beaucoup de gazouillis, le crocodile, l'alligator, tout ça, voilà.
Et l'acte lui-même?
Alors, allons-y. Il est assez classique, d'autant plus que pour un reptile, le crocodile n'a qu'un pénis, ce qui est rare. D'habitude, les lézards et les autres, ils en ont deux. Mais le crocodile, il n'en a qu'un, en forme de sabre, et puis bah, il fait, voilà, j'allais dire comme tout le monde, mais voilà.
Mais pourquoi ils en ont deux, les autres? Ça sert à quoi?
Eh bien, chez les serpents notamment, ça sert à pas se louper, parce qu'ils n'ont pas de bras.
Ils sont un peu mieux, ils sont miraux. Ah oui, ils n'ont pas de bras.
Si on commence à parler des caquettes dans le monde animal, c'est un monde prodigieux. Hein. Donc les vipères, par exemple, elles en ont deux, et avec des goupillons. Comme ça s'accroche à l'intérieur de la femelle, et ils ne se lâchent pas. Mais c'est aussi stimulant. Hein. L'éléphant, il en a une à tête chercheuse, parce qu'il faut se mettre à sa place. Sa femelle, c'est un énorme rond, il ne voit rien. Donc il a une sorte de deuxième trompe, si vous voulez, qui a un bout qui immobile
qui
et qui
trouve
cherche.
Le chemin,
voilà.
Quoi.
Et il y a un insecte qui a un sexe à musique, qui vibre le tipule. Vous savez, c'est une espèce de gros moustique qu'on appelle quelquefois cousin. On en voit déjà
des cousins, d'accord.
Et on en verra beaucoup en automne. L'accouplement dure longtemps et le sexe du mâle comporte un vibromasseur. Parce qu'en fait, ça stimule la femelle et là, on arrive au cœur du sujet, c'est le plaisir. Et le plaisir féminin. Parce que ça a été occulté pendant des siècles et des siècles. Et en fait, j'ai fait un bouquin féministe.
Bah, attendez, le plaisir féminin des animaux,
de toutes les femelles, oui. Parce que sinon, pourquoi elles iraient se faire prendre par des
empalés.
Mâles comme ça, oui.
Gentiment empalés.
Oui, parce que parfois, voilà. C'est quand même rude, c'est bestial, quoi, c'est le cas de le dire.
Les animaux sauvages ne sont pas habitués au contact.
Bah oui.
Alors, il faut une gratification pour qu'ils acceptent l'accouplement. Bon, le mâle, on sait qu'il se soulage parce que lui, là, il a besoin de lâcher ses semences. C'est pour ça qu'il y en a qui se masturbent, sinon...
On racontera ça tout à l'heure. Faut pas tout dire d'un seul coup, Marc Giraud, si vous voulez dire. Il y a des préliminaires dans une interview aussi, faut pas... Tiens, par exemple, à propos d'odeur, vous disiez que dans la séduction entre animaux, il y avait des danses, il y avait des chants, il y avait l'odeur aussi.
Il y a du pipi aussi.
Et il y a du pipi, c'est ce que j'ai appris dans votre livre. Le lapin, comment il fait pour draguer son amoureuse?
L'urine, surtout chez les mammifères, c'est un parfum aphrodisiaque qui peut transformer l'état de la femelle. Et donc le lapin, il asperge sa femelle d'urine, mais quelquefois à un mètre de distance, avec beaucoup de précision. Et c'est ça aussi qui la met dans tous ses états elle-même. L'odeur de l'urine d'un mâle peut transformer une souris. C'est vraiment un parfum très très puissant.
Alors chez les animaux comme chez les humains d'ailleurs, on drague grâce à son odeur, mais aussi grâce à la voix. Regardez, écoutez plutôt le brame du cerf, par exemple. Alors ça, Marc Giraud, ce brame du cerf, c'est censé déclencher quoi chez les biches?
Ça les fait ovuler carrément. Hein.
L'ovulation.
Ah oui.
Juste le brame.
Oui, juste le brame, c'est un crooner très très efficace. Hein.
C'est le Frank Sinatra commence de la forêt, c'est ça?
Oui, absolument.
Vous croyez que Frank Sinatra a déclenché la même chose chez ses fans?
Peut-être.
Justement, oui.
Peut-être.
Comment vous dire, on a plein de questions encore à poser à Marc Giraud. Tiens, par exemple, les animaux peuvent-ils simuler? Réponse tout de suite, les curieux de l'été.
L'été rime avec curiosité sur RTL. Septembre 2016, juin 2017, saison record pour RTL. Vous n'avez jamais été aussi nombreux à nous écouter depuis 15 ans.
Merci à vous tous.
Merci
beaucoup.
Merci à tous.
RTL, c'est chaque jour près de 6 600 000 auditeurs. Merci de votre confiance, merci de votre fidélité et bel été sur votre radio préférée. RTL, première radio de France. Tout l'été, la curiosité sur RTL.
C'est la curiosité de l'été. On découvre toutes les similitudes très étonnantes entre la sexualité des animaux et puis la nôtre. Et c'est Marc Giraud, notre bestiologue préféré, qui se transforme en sexologue. Et Thomas posait la question, c'est une bonne question ça, mais est-ce qu'elle peut aussi simuler? Puisqu'on a aussi découvert que les femelles avaient du plaisir dans l'acte sexuel. C'est une info dont on ne parle pas souvent. Alors la simulation, oui ou non?
Oui, ça peut arriver. On le sait chez les truites. C'est bizarre, mais bon, les truites, elles ont un accouplement sans pénétration, c'est une fécondation externe.
Alors, c'est-à-dire ça ?
C'est-à-dire que les mâles comme les femelles lâchent leur gamète sexuelle dans l'eau et c'est l'eau qui va les féconder. Oui, c'est pas rigolo, mais bon, c'est comme ça que font la plupart des poissons. Mais quand même, il faut que ça soit synchronisé. Donc, la femelle, quand elle rencontre des prétendants qui ne sont pas à leur goût, elle fait comme si elle allait faire, donc elle simule vraiment. Hein.
C'est-à-dire ça donne quoi la simulation de la truite?
Elle se met à trembler, la bouche ouverte, avec une attitude extatique, comme ça. Et donc les mâles, voyant ça, c'est trop érotique pour eux, ils lâchent leur gamète, ils éjaculent. Donc ils sont contents, ils ont eu ce qu'ils voulaient.
Mais ils n'auront pas d'enfants.
Parce que les truites, elles ne lâchent pas leurs ovules.
Et la truite a fait semblant. Mais quand elle verra un mâle à son goût, là, elle lâchera.
Voilà. C'est incroyable. C'est la liberté de la truite, finalement.
Mais oui, les femelles se débrouillent pas si mal que ça.
Et donc, quand on voit une truite, un mâle un peu perdu comme ça, il se dit, mais peut-être qu'elle simule.
Elle m'a trop eu. Quelle garce, cette truite.
Alors, si Denis disait, est-ce qu'il y a des femelles qui coupent les têtes, qui coupent les sexes? Là, je ne sais pas pourquoi elle était castratrice juste avant la pause, si Denis.
Oui, bah, y a des mâles qui laissent leurs bijoux de famille dans la femelle avant de mourir, hein, comme les abeilles ou autres. Là,
systématiquement.
Oui, il y a des espèces, oui, parce que ça fait une sorte de ceinture de chasteté. C'est-à-dire qu'ils y laissent la vie, mais ils seront sûrs de transmettre leurs gènes, si on peut dire ça comme ça. Donc oui, ils laissent. Il y en a d'autres, alors on a découvert ça chez les hérissons, je crois, qui font vraiment des ceintures de chasteté, c'est-à-dire qu'ils laissent une espèce de substance collante qui a obstrué les voies génitales de la femelle, et comme ça, il est tranquille, c'est lui, il sera le papa.
C'est-à-dire que toutes vos histoires de sexualité ne sont pas ragoûtantes quand même, il faut dire les choses, Marc Giraud. Tiens, d'ailleurs, les hérissons, ils font
comment? Les animaux diraient peut-être la même chose de nous. Hein,
exactement, c'est une vision totalement centrée, ça.
Complètement.
Comment ils font les hérissons?
Ah oui, on peut se poser des questions avec ces piquants. Alors bon, la femelle, quand elle est consentante, elle aide le mâle en rabaissant ses piquants, mais lui, il a quand même une rallonge, hein, il fait ça un peu à distance. Son sexe commence là, on s'entendrait à voir le nombril, déjà il est très très devant, il est assez long, donc avec les piquants rabaissés, ça va quoi, ils y arrivent.
Est-ce que les animaux, Marc Giraud, ont une position sexuelle favorite?
Les vertébrés, en général, c'est la levrette, oui. Ouais. Ça se passe, le mâle derrière. En général, c'est comme ça. Hein.
On voit à peu près, oui, mais il y a de l'imagination aussi.
Il y a peut-être
aussi
des non-initiés. Donc, voilà.
Mais il y a des gens plus farfelus, parce qu'on peut s'inspirer. Hein. On est toujours prêt à prendre des conseils. Hein.
Oui, il y a un peu toutes les positions.
Alors, les bonobos, on est tous dans le studio de la curiosité, on prend des notes. Là, on a tous notre papier blanc. Allez-y, donc les bonobos, ils font quoi?
Ils font tout. Alors là, c'est carrément des acrobaties. En plus,
ils sont des singes, hein, c'est ça?
Oui, les très proches des chimpanzés. Et eux, c'est presque toutes les deux heures. Hein. C'est une sorte de, comment dire, c'est pacificateur. Dès qu'il y a un petit conflit, on fait l'amour, on se fait une petite gâterie, quel que soit l'âge, le sexe, tout ça, on s'en fout.
C'est comme pour ça, faire ça la calme, paix. C'est un mode de communication aussi.
Voilà, ça calme. C'est un peu comme se serrer la main ou dire cool cool. Voilà, c'est
le sexe appelle du appelle. Le sexe appelle du crocodile.
Ah, allô. Ah, le sexe appelle. Je vous le passe, Thomas. C'est pour vous.
C'est publié chez Delachaux et Niesley. Bonjour, comment vas-tu? Où est-ce que j'en étais? Oui, tiens, le plaisir solitaire. J'ai découvert ça dans votre livre. Il y a des animaux qui pratiquent l'onanisme.
Les gens qui ont des chiens savent bien que les coussins peuvent servir à ça. Hein.
Ils sont pas toujours regardants. Des chiens, mais alors ils
se frottent sur les coussins. Ouais. Hein, si,
c'est vrai.
Ah bah oui, ou sur les jambes des.
Ah ça oui, ça invités, d'accord.
Voilà, donc. Ouais.
Mais ouais, ça, je pensais que parce qu'ils étaient un peu miro, les chiens qui se frottaient aux jambes.
Ils sont pas regardants. Invités. C'est vrai qu'il y a un oiseau des prairies américaines qui s'accouple avec des bouses de bison, donc c'est pas très flatteur pour la femelle, ça.
Les dauphins,
les femelles dauphins,
les femelles dauphins,
pareil.
Qu'elles utilisent
en Bretagne, il y avait un dauphin qui n'avait pas peur des humains, qui s'appelait Jean-Louis, mais en fait c'était une femelle.
C'est joli, elle pour se
frottait,
une femelle.
Oui, elle se frottait sur les cordages, sur les avirons, et elle se faisait des plaisirs sexuels comme ça. Elle était toute seule, et voilà. Et votre copain.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec, les curieux sont sur RTL cet été. Cet été, soyez fiers d'être curieux avec RTL.
Il n'y a pas que les humains qui sont des sex-machines, les animaux aussi, on en parle sur RTL. Et si vous êtes curieux, vous êtes forcément au bon endroit. Nous sommes avec le naturaliste Marc Giraud. Vous nous racontez les mœurs sexuelles de ces animaux et notamment certaines pratiques communes entre les animaux et les hommes. La fellation, par exemple, quel est l'animal ou les animaux qui la pratiquent?
Ah, il y en a plusieurs. Hein. C'est assez courant, finalement. Mais on l'a vraiment découvert chez les chauves-souris, hein, chez une espèce qui s'appelle le Cynoptère à nez court. Et la fellation est systématique, mais pendant l'acte. C'est-à-dire que la femelle se plie pendant l'acte pour lécher la base du pénis de son partenaire, ce qui prouve en même temps qu'elle a une longue langue et qu'elle est très souple. Et quelques années après, c'est une autre espèce, les roussettes géantes d'Inde, on s'est aperçu qu'elles se faisaient des cunnilingus avant et après l'accouplement. Donc on ne sait pas exactement à quoi ça sert, mais probablement...
Ce sont des préliminaires, parce que vous avez parlé de plaisir, d'une notion assez nouvelle dans l'accouplement animal.
Pour avant, c'est forcément des préliminaires, mais ils le font aussi après. Donc on peut penser que c'est aussi la petite gâterie finale, le point... Voilà, on ne sait pas exactement, mais le plaisir explique beaucoup de choses. Ça ne rentre pas dans les cordes des scientifiques encore, le plaisir.
Pourquoi? Parce que c'est un petit peu tabou, puis ça n'intéresse pas la reproduction, on va dire la...
Parce qu'on considère que l'être humain est mieux que tout le monde, et il sait faire mieux que tout le monde, alors que les animaux, ils ont le droit.
Mais Marc Giraud, est-ce que ça concerne prioritairement ou principalement les mammifères?
Surtout, toutes les femelles mammifères ont un clitoris, hein, de la souris à la baleine, ça on en est sûr. On l'a trouvé aussi chez les tortues par exemple, et je vous parlais tout à l'heure d'une espèce de moustique qui avait un vibromasseur pour sa femelle, donc ça peut aller loin dans l'échelle de la création. Hein.
Alors depuis tout à l'heure, grâce à vous Marc Giraud, on découvre ces anecdotes qui sont marrantes, qui sont amusantes sur la sexualité des bêtes, mais c'est aussi une façon de comprendre l'évolution. La sélection naturelle, pourquoi ?
Mais oui, parce que en fait, c'est Darwin qui a trouvé ça d'ailleurs. C'est pour ça que c'est un génie. Il a trouvé la sélection naturelle et après il s'est dit mais pourquoi les mâles et les femelles sont pas pareils ? Si le mâle du cerf a des grands bois. À quoi ça sert si ça servait vraiment, les femelles en auraient aussi. Et là, il a inventé ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Donc, c'est que les femelles sélectionnent les mâles qui leur plaisent. Donc, elles font des mâles différents et elles aiment bien le tape à l'œil. Ce qui fait qu'elles aiment des grands bois. Oui. Elles aiment des pans avec des queues immenses, colorées, etc. Elles aiment des champs truands. Et tellement que ça peut être un handicap pour le mâle. C'est ce qu'on appelle le handicap séducteur. Parce que pour un pan, avoir une longue traîne comme ça derrière soi, quand on se fait attaquer par un tigre, on est limite de la survie. Donc vraiment, les femelles sélectionnent ce genre de choses. On est vraiment à la base de l'évolution.
Et elles aiment la grandeur, c'est ça? C'est quoi? Il y a un sentiment de protection? Qu'est-ce qui peut attirer, vous qui êtes naturaliste?
C'est plutôt la bonne santé du mâle. C'est-à-dire que pour se permettre de telles couleurs, il faut être en super forme, donc avoir des super gènes. Et la femelle, c'est une sorte de garantie sur sa progéniture.
Alors puisqu'on parle de taille dans la nature, qui est la plus longue?
J'ai
pas dit dans le studio,
j'ai
dit dans la nature. Qui est la plus longue?
Dans les plus longues, évidemment, il y a l'éléphant, c'est 1m50.
Évidemment, c'était pas une évidence pour moi. 1m50 de sexe, c'est pas mal.
Oui, bon, la baleine, c'est encore plus, hein, c'est 3 mètres. et un mètre à la base de circonférence.
Ah oui, c'est un mât, quoi.
Diamètre. Oui, bah oui, mais c'est une grosse bête. Mais en revanche, en proportion, c'est pas pareil. Hein. En proportion, ça pourrait être l'argonaute, qui est un.
C'est quoi un argonaute?
C'est un céphalopode, c'est un cousin des calmars. Et lui, il a un pénis qui fait 10 fois la taille de son corps, quand même. Vous imaginez. Et en plus, c'est un pénis détachable. C'est-à-dire que c'est le zob qui fait le job, il l'envoie. et c'est le truc qui fait... voilà, il a plus rien à faire. Mais il le fait qu'une fois dans sa vie.
Ah bah oui, il revient pas, il a pas trouvé le chemin du retour, c'est ça. Non, voilà. Et la plus petite, c'est quel animal?
Le panda, il a un tout petit nem de 3 cm en érection, hein, c'est pas terrible. Le chimpanzé, on pourrait croire, c'est une micro-banane de 2 cm. Même le gorille, c'est 5 cm les grands jours. Hein. Donc, finalement,
ça rend les femelles tristes ou pas, ça?
Bah non, parce qu'ils sont assez adaptés les uns aux autres. Hein, donc, voilà. Donc, et puis l'humain, finalement, avec ses 15 cm de moyenne, finalement, il s'en sort pas si mal parmi les primates.
Oui, en proportion, on est pas si mal. Le sexe à pile du crocodile, c'est le titre de votre livre, dans lequel on découvre encore plein d'autres anecdotes. Tiens, par exemple, pourquoi le clitoris de la hyène mérite-t-il le détour?
Ah oui, parce qu'il est spectaculaire. Et le clitoris, en faisant ce livre, j'ai trouvé assez peu de documentation sur les organes féminins. Probablement parce que c'est les hommes qui ont été scientifiques pendant des années. Il y a un certain machisme et que c'est moins facile à découvrir, évidemment, puisque c'est interne. Donc, sur les hyènes, on est obligé de voir parce qu'elles ont un clitoris de presque 20 cm.
Mais extérieur,
c'est-à-dire ? Extérieur, qui est une forme de phallus. Et qui est érectile, hein, comme tous les clitos. Ouais. Donc, quand elles sont en forme, ça se voit bien. Et en plus, elles ont les lèvres génitales qui pendouillent comme des coucougnettes, ce qui fait qu'elles ont vraiment une silhouette de mâle. Et c'est elles qui portent la culotte dans tous les sens, c'est-à-dire que toutes les femelles sont dominantes. Une toute petite femelle rachot sera toujours plus forte que le plus gros des mâles. Les hyènes, c'est vraiment c'est très féminin. Le problème, c'est que leur clitoris sert aussi à l'accouchement. Et là, les hyènes rieuses, elles rigolent moins quand même.
Quand je pense qu'on n'a que 10% de vos anecdotes, il y en a plein de...
Bah, il faut vite acheter le livre.
Dans ce sexe à pile du crocodile, qui est vraiment un livre délicieux, si je puis me permettre la formule, aux éditions de Lachaud et Nestlé, avec les très chouettes dessins et très drôles dessins signés Gilles Macagnon. Merci beaucoup, Marc Giraud.
Je vous en prie, c'est un plaisir.
Merci, Marc.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Tout le monde est mort de rire dans ce studio.
Ça fait du bien.
Doc, ça fait beaucoup de bien, mais il faut quand même réussir à conclure sérieusement.
Oui, si vous avez raison avec le programme de demain, par exemple. Non, pas du tout, celui de lundi.
Voilà, plutôt lundi on sera là à 15h lundi. Alors, il y a quoi au programme?
L'histoire de la poste. Et aussi une rencontre avec un célèbre magicien, le fameux Dany Larry.
Méfiez-vous de ses tours. Allez, bon après-midi, bon week-end, à lundi. Dans un instant, les grosses têtes.